Le programme qui va suivre vous est présenté par le ministère enseigne-moi.com. Soyez transformés par l'enseignement de la parole de Jésus-Christ.
C'est pourquoi en son nom, je pose les mains sur les malades et ils sont guéris.
Jésus macht frei.
Jésus libère.
Jésus rettet.
Jésus. Nous avons la parole de Dieu qui renverse des chimères, des forteresses.
Tu passes du nom de chrétien au nom d'enfant de Dieu.
Je n'ai ni force, ni raison, ni sagesse pour me relever. Enseigne-moi.
Le ministère Jeune Kakou ont le plaisir de vous apporter ce message qui, j'en suis sûr, transformera votre vie. Pour tout renseignement complémentaire, allez sur notre site web au www.jeunekakou.org. Que Dieu bénisse l'écoute de ce message.
Jacques, chapitre 1, à partir du verset 2. Voilà ce que la Bible dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Je vais prier le Seigneur. Éternel mon Dieu, je te rends grâce et je te remercie pour cette parole. Je prie au nom de Jésus que tu nous parles à travers cette parole. Touche notre cœur, touche notre pensée, touche notre vie, que nous soyons affectés à tout jamais. Et que, éternel mon Dieu, après ce message, notre vie soit totalement bouleversée et que plus jamais nous ne cédions la place au découragement, Seigneur. Mais que nous sachions persévérer jusqu'à obtenir les promesses qui s'attachent, éternel mon Dieu, à ta parole. Et que nous puissions être des témoins véritables et des témoignages véritables de ta gloire, de ta puissance, de ta grâce et de ta bonté à l'égard de l'humanité. Père, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est bizarre ce que la Bible dit ici. La Bible nous dit que lorsque nous avons une épreuve, nous ne devons pas être tristes, nous ne devons pas pleurer, mais au contraire, on doit regarder cette épreuve-là comme un sujet de joie. En d'autres mots, il te dit, quand une épreuve vient même, mon frère, commence à danser. Commence à danser, commence à te réjouir. Parce que ça veut dire que quelque chose est en train de se produire dans ta vie. Alléluia. Une épreuve vient, comme je vous l'avais expliqué, et comme je vous l'explique, une épreuve vient généralement pour pouvoir te tester. Et à la suite d'une épreuve, lorsque tu réussis à l'épreuve, tu passes à une autre dimension, mais lorsque tu échoues à l'épreuve, tu es obligé de recommencer. Alléluia. Donc, mon frère, quand une épreuve vient, ce n'est pas le moment pour toi de pleurer. Ce n'est pas le moment pour toi de gémir. Ce n'est pas le moment pour toi d'être anxieux. Parce que voilà une occasion que tu as de pouvoir changer de niveau, de pouvoir changer de dimension, de pouvoir changer d'état. Quelqu'un qui va à une épreuve, étant anxieux et avec la peur au ventre, il va certainement échouer à cette épreuve-là. Mais quelqu'un qui va à une épreuve, confiant, calme, serein, sachant que c'est une épreuve, tout simplement, et qu'il sera jugé sur le travail, tout le travail qu'il a accompli durant l'année, il n'y a aucune raison qu'il puisse échouer à cette épreuve. Alléluia. Et donc Dieu te dit, quand tu as différentes sortes d'épreuves, mon frère, sois dans la joie. Parce qu'il faut que, Parce qu'il faut que tu saches que l'épreuve de ta foi produit la patience. Je ne sais pas si tu as remarqué ici ce mot qui dit l'épreuve de ta foi. Épreuve de ta foi. D'abord, une épreuve, c'est quoi? Une épreuve, c'est une situation qui éprouve ton courage, ta résistance et ta foi. Une situation qui éprouve. C'est une opération par laquelle on juge tes qualités ou les qualités et la valeur d'une chose. Tu sais, quand quelqu'un vient, par exemple, je ne sais pas, pour te vendre un appareil, lorsque tu prends l'appareil, tu ne vas pas sur la base de ce qu'il dit acheter l'appareil, mais tu vas vouloir constater de par toi-même la valeur de cet appareil-là. Donc, tu vas soumettre l'appareil à une épreuve pour savoir si ce que la personne a dit, c'est véritablement ça. Alléluia. Et souvent, c'est les épreuves auxquelles on va confronter cet appareil-là devant toi qui vont te pousser à l'acheter ou à ne pas l'acheter. La dernière fois, je voyais la démonstration d'un aspirateur à la télévision. Mais quand tu regardes les épreuves qu'ils ont fait subir à cet aspirateur-là, mais tu as envie d'appeler pour commander l'aspirateur. Ils prennent l'aspirateur, ils mettent des billes en chose en fer. Et ils passent l'aspirateur dessus, l'aspirateur absorbe toutes les billes. Ils disent, regardez la puissance de l'aspirateur. Ils mettent une corde sur l'aspirateur avec une ventouse. Ils prennent une table, ils déposent la table, ils mettent les ventouses sur la table. Regardez la pression de l'aspirateur, un petit aspirateur comme ça. Ils collent les ventouses sur la table, ils mettent l'aspirateur en marche, ils soulèvent la table avec les ventouses. J'ai dit, Après ça, ils disent, bon, ce n'est pas fini. Regardez maintenant, ils ajoutent maintenant sur la table d'autres éléments. Genre des fruits, des pastèques, des ceci, cela, et ils remettent encore les ventouses et soulèvent. Je dis, mais nous, généralement, ce qui se passe, c'est que celui qui a créé l'aspirateur, là, il sait ce que l'aspirateur peut faire, il sait ce que l'aspirateur ne peut pas faire. Mais comme il va te vendre le produit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te faire ce que l'aspirateur est capable de faire. Et ce que Dieu me disait, il dit, je suis comme le fabricant de l'aspirateur. Et vous, vous êtes comme l'aspirateur. Quand on voit la table, tu dis, est-ce que je vais pouvoir soulever la table? Est-ce que je vais pouvoir soulever la table? Mais celui qui t'a créé, celui qui t'a fabriqué, sait que tu vas pouvoir le faire. Alléluia. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait comment est-ce qu'il t'a fait, comment est-ce qu'il t'a façonné. Il sait quelles sont les qualités qu'il a déposées dans ta vie. Il sait tout ce qu'il a injecté en toi et il sait de quoi tu es capable. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, aucune épreuve qui vous est survenue n'était au-delà de vos forces et de vos capacités. Amen. Donc dès que Dieu permet une épreuve dans ta vie, c'est que tu as la capacité de pouvoir sortir de cette épreuve. Amen. Tu en as la capacité. Donc ne dis pas c'est plus fort que moi. C'est trop fort. Non, cette épreuve-là, je ne vais jamais pouvoir la surmonter. C'est faux. Dieu ne permet pas que tu puisses avoir des épreuves que tu ne puisses pas surmonter. Et si jusqu'à présent tu es dans le cycle infernal de l'épreuve, ça veut dire que ta vie est une épreuve. C'est parce que jamais tu ne t'es levé avec le désir de surmonter les épreuves qui sont devant toi. Parce que pour sortir d'une épreuve, il faut la surmonter. Tu ne peux pas passer en bas, tu ne peux pas passer à gauche, tu ne peux pas passer à droite, tu ne peux pas te cacher. Tu dois surmonter l'épreuve si tu veux aller à l'autre dimension. Alléluia. Il n'y a pas de tricherie. Il n'y a pas de tricherie. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite, de dire, ah non, mon frère, il faut venir, tu vas enlever l'épreuve là pour moi. Il va chasser l'épreuve va aller t'attendre devant. Amen. C'est pour ça qu'il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça veut dire quoi? Dieu veut que l'épreuve de votre foi produise la patience et que la patience accomplisse son œuvre. Mais quand il parle de patience ici, c'est pas la patience qui attend tout simplement que l'épreuve s'en aille. Il faut me donner la version Le Semeur. Parce qu'il y a deux mots qui ont été traduits par patience dans la Bible. Tu as le mot macrotumia. Ça, c'est de l'hébreu. Amen. Ça a été traduit par patience. Et tu as le mot aussi upomone. Il faut dire à ton voisin upomone. Mon frère, il faut que tu saches que la Bible là, n'a pas été écrite en français. Et moi-même, à chaque fois je le dis, mais je crois qu'un jour ça va venir. Je ne vais plus lire la Bible en français. Parce que les Français là, ils aiment trop raisonner. Et ils voient quelque chose, mais vont traduire ça d'une manière raisonnable. C'est-à-dire, ils veulent raisonner Dieu. Une fois, il y a une pastorale, il y a un homme de Dieu qui est parti. Bon, malheureusement, il est... Bon, heureusement ou malheureusement, il n'est plus avec nous. L'homme de Dieu Obaker. Vous le connaissez pour certains, ceux qui ont participé à certaines de ces réunions ici. Tous les pasteurs français étaient réunis dans une salle. Et puis bon, à chaque pasteur, on donnait la parole. Et Obaker dit, il s'est levé. Il dit, moi, je veux parler. Il dit, vous les pasteurs français là, vous avez un problème. Devant tous les pasteurs. Les gars le regardent comme ça. Il dit, vous avez un sérieux problème. Les gens le regardent. Il dit, vous raisonnez Dieu. Vous raisonnez trop. C'est ça votre problème. Vous voulez diluer des fois le sens des choses que Dieu dit. Mais Dieu, là, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. C'est-à-dire que tu ne peux pas comprendre Dieu avec le mode de pensée humain. Il faut que tu acceptes d'obéir tout simplement à Dieu et de faire à la lettre ce qu'il te demande de faire. Parce que si tu veux le comprendre ou bien le raisonner, tu ne pourras pas. Amen. On va lire ça dans une autre version, la version du Semeur, Jacques, chapitre 1. À partir du verset 2, la Bible dit ceci. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Alléluia. La mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Mais il faut que votre endurance aille jusqu'au bout de ce qu'elle peut faire pour que vous parveniez à l'état d'adulte et soyez plein de force des hommes auxquels il ne manque rien. Amen. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Il faut que votre endurance aille jusqu'au bout. Le bout là, c'est quoi? L'accomplissement de la promesse. L'accomplissement de ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans ta vie. Il faut que ton endurance aille jusqu'au bout. Parce que même si tu endures pendant, je ne sais pas, 30 jours, alors que tu devais endurer pendant 31 jours, ton endurance n'est pas arrivée jusqu'au bout. Amen. Ta patience n'a pas été accomplie de manière parfaite. Maintenant, quand on parle de l'épreuve de la foi, là, ça veut dire quoi? L'épreuve de la foi. Comment on peut éprouver la foi de quelqu'un? Comment est-ce qu'on peut éprouver la foi de quelqu'un? L'épreuve de la foi. On éprouve ta foi. On éprouve ta foi. On éprouve ta foi. On éprouve ta foi. Ça veut dire quoi? Tu as une foi et ta foi est soumise à une épreuve. La Bible dit que si quelqu'un a une foi grosse comme un grain de sénévé et qu'il dit à cette montagne, ô toi de là, va te jeter dans la mer, la montagne va lui obéir. Souvent les chrétiens pensent que comme les montagnes ne se déplacent pas devant eux, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi grosse comme un grain de sénévé. C'est faux. Tout le monde ici a une foi au moins aussi grosse qu'un grain de sénévé. Parce que le grain de sénévé, c'est le plus petit grain qui existe sur la terre. C'est comme un grain de poussière. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas de foi aussi grosse qu'un grain de poussière. Alléluia. Mais, il faut quand même que cette foi-là puisse être travailler, puisse être éprouvé, qu'elle puisse être challengée même, de telle sorte que tu ne sois pas là en train de déplacer les immeubles au plateau, Tu arrives au plateau, tu dis, bon, moi je n'aime pas que la CAA se trouve là. Bon, CAA, va au bord de la lagune. Bon, tu dis, bon, le palais de la culture là, c'est pas intéressant que ce soit ici. Bon, palais de la culture, va à la place de la mosquée. Bon, mosquée, tu vas à 13. Non, pour ne pas que tu sois en train de réorganiser la ville, imaginez que un seul chrétien soit capable de faire ça, ou bien deux. Dès qu'il a fini de déplacer la batte, on dit, mais pourquoi tu as déplacé la batte? Qui t'a dit que moi, j'aime que la batte soit ici? Bon, batte, retourne à ta place. L'autre dit, non, bon, batte, va à Trècheville. L'autre dit, bon, batte, va. Ils allaient déplacer, passer leur tâche, déplacer les immeubles, les montagnes, les voitures. Là, je sais pas, ils allaient vraiment faire des choses extraordinaires. Mon frère, pense que ta foi, dès que tu dis, Seigneur, je veux telle voiture, automatiquement la voiture apparaît devant ta maison. Il y a des gens qui allaient avoir au moins 80 voitures dans leur garage. Ils allaient semer un désordre pas possible. Ils allaient mettre le monde dans un chaos. L'épreuve de la foi. C'est-à-dire, la foi a les capacités, mais c'est Dieu lui-même qui limite l'action de ta foi. Pour pouvoir t'éprouver de telle sorte que les véritables valeurs, les choses importantes de ta vie puissent ressortir. Que tu deviennes quelqu'un de bon, quelqu'un de fort, quelqu'un de parfait, quelqu'un de puissant, quelqu'un en qui on peut avoir confiance pour pouvoir lui confier maintenant, pouvoir lui permettre que ta foi puisse déplacer les montagnes. Ta foi peut déplacer les montagnes. Mais c'est Dieu lui-même, quand tu dis montagne, bouge, Dieu dit montagne, reste là. Alléluia. Dieu lui-même éprouve ta foi. Pour voir si ta foi n'est pas basée sur des choses vraiment élémentaires, sur des choses futiles. Parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sont soumis à une petite épreuve seulement, ils commencent déjà à maudire Dieu, à maudire leur pasteur, à maudire leurs amis, à se plaindre, à crier, à pleurer. Parce qu'ils ont été frustrés, parce qu'ils ont, prié pour quelque chose et ils n'ont pas vu cette chose-là s'accomplir. Commence à rentrer dans des dissertations bizarres. Que non, c'est l'arrière-grand-père de ton arrière-grand-père qui un jour, lorsqu'il passait là-bas, on va rentrer maintenant dans les arbres généalogiques où on va aller calculer la position des astres pour voir pourquoi que l'influence de la grande ours sur ton, je sais pas quoi, ton ceci, a produit cela, ou bien on va dire non, c'est ton nom qui fait comme ça. La Bible dit que Jabez, son nom signifiait souffrance, mais il a crié à l'Éternel, alléluia, et Dieu a entendu sa prière. Amen. Mon frère, ce qui peut te bloquer là, c'est toi-même. C'est l'ignorance. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, c'est tout. Si tu connais l'autorité que Dieu t'a donné, de laquelle il t'a investi, mon frère, tu ne peux pas te laisser arrêter par quoi que ce soit. Mais sache que ce n'est pas parce que tu es un chrétien, que tu es un enfant de Dieu, ou bien que tu as la foi, que cette foi-là ne sera pas éprouvée. Amen. Éprouver la foi, ça veut dire laisser des situations. Dieu laisse des situations se produire de telle sorte qu'il puisse véritablement apprécier la valeur de ta foi. Est-ce que c'est une foi qui est basée sur des choses futiles? Est-ce que c'est une foi qui est basée sur l'enrichissement personnel? Il y a des gens qui viennent à l'église tout simplement parce qu'on leur a dit, si tu viens à l'église, tu ne vas plus souffrir. Si tu viens à l'église, tu vas prospérer. Ou bien si tu vas à l'église, on va te nommer. C'est là même quand tu viens, là, on dit non, la nomination, on va voir ça après, dans 2 ans. Parce que Dieu veut véritablement éprouver cette foi-là. Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle est véritable? Est-ce qu'elle est, je sais pas, est-ce qu'elle est bonne? Éprouver. Ce n'est qu'après maintenant l'avoir éprouvée. Quand Dieu voit que non, c'est une foi sincère, on peut lui faire confiance. C'est à ce moment-là que tu vas commencer à voir les montagnes se déplacer. Mais tu ne vas pas utiliser cette foi-là pour déplacer les immeubles du plateau ou bien pour empêcher les avions de décoller. Il y a un homme de Dieu. Il a commencé à traumatiser tout un pays. Le gars doit partir en voyage, il arrive à l'aéroport. On dit, on est désolé, on a déjà fini les enregistrements, les bagages sont partis, l'avion est prêt à décoller. Il les regarde dans les yeux et dit, si l'avion là décolle, là, ça va sans moi, ça va s'écraser. Les gens se regardent. Ils appellent le commandant. C'est l'avion. Ils disent, ah, commandant, vous êtes prêt à décoller, mais il y a un homme de Dieu qui est ici qui dit que si l'avion décolle sans lui, là, ça va s'écraser. Qu'est-ce que vous faites? On attend silence dans la radio. L'avion fait demi-tour. Et puis ça va se garer. On voit la passerelle. Et il dit, bon, faites-le venir. Alléluia. Combien de fois, vous-même, en tant que chrétien, quand quelqu'un vous fait quelque chose, vous ne pensez pas, si vous aviez le pouvoir de le faire sécher sur place là, oh non, il y a longtemps même qu'il avait eu son compte, mon frère. Combien de personnes? C'est-à-dire, le gars même te parle, mais ça t'énerve tellement, tu dis, mais hé. C'est ce qui est sur ton cœur là. Et tu veux prononcer une malédiction sur sa vie. Mais si tu avais ce pouvoir ou bien cette grâce là, mais peut-être que tout le monde en Côte d'Ivoire l'est maudit. Les ministères déjà l'aide fermés. Il y a des gens qui veulent fermer les ministères. Tel pasteur là, il m'a pas bien salué. Dieu n'a qu'à fermer son église. Mais personne n'allait prêcher l'évangile. C'est pour ça que Dieu éprouve ta foi. Il éprouve ta foi. Ta foi peut faire des choses extraordinaires. Ta foi peut déplacer des montagnes. Ta foi peut véritablement emmener la guérison dans la vie de quelqu'un. Ta foi peut produire des résultats extraordinaires. Mais il faut que ta foi soit éprouvée. Sinon, les gens ne vont plus respirer à Abidjan. Alléluia. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre d'Hébreu, chapitre 12, versets 1 à 3. Il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Alléluia. Il suscite la foi et il fait quoi? Il l'amène à la perfection. En échange, la Bible dit, en échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Alléluia. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui suscite dans nous, en nous la foi, mais il fait quoi? Il amène cette foi-là à la perfection. Il permet à cette foi-là d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Et la Bible dit que non seulement lui, Jésus, c'est lui qui suscite en nous la foi et qui l'amène à la perfection, mais la Bible le cite comme exemple en disant que, au lieu de la joie qui lui était réservée, il a préféré venir sur la terre pour souffrir. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce que les gens lui ont fait? La Bible dit qu'il a supporté, considéré en fait. Voilà, il a supporté une opposition de la part des pécheurs. Alléluia. Tu vas me dire, quelle opposition? Quand les gens venaient lui dire, tu fais les miracles par Belzébul, tu es un enfant du diable. Les gens l'ont insulté. Quand il était sur la croix, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Si tu es vraiment le fils de Dieu là, faut sortir, faut quitter là. Les gardes aussi. Ah, mais tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu? Tu fais quoi sur la croix? Les gens, les moqueurs là, ça n'a jamais cessé. Et ça ne va jamais cesser. Quand les gens voient quelqu'un traverser des difficultés, ils ne se disent pas que c'est tellement Dieu en train d'éprouver sa foi. Hein. Ils se disent, non, il a péché. Hey. Il est maudit. Non, Dieu ne l'aime pas, Dieu ne l'aime plus. Ou bien tu penses que parce que tu traverses des difficultés, Dieu ne t'aime pas. Qui t'a dit ça? Non, Dieu n'aime pas Jésus alors. Jésus était sur la croix. Je ne sais pas. Donc, pourquoi? Parce que quelqu'un ne t'aime pas, il va permettre que tu puisses passer par des épreuves. Jésus était sur la croix, les gens venaient. Oh, mais tu n'as pas dit que tu es le fils de Dieu, mais on dit quoi là? Faut quitter là maintenant, mon frère, il y a quoi? Quand bien même avant même d'aller sur la croix, il a été flagellé, il a été battu par des gardes. Lui, le fils de Dieu. Alléluia. L'alpha et l'oméga. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole est venue habiter parmi nous. Mais nous l'avons rejetée. Lui qui est la parole de Dieu, qui était là avant le commencement. Sans qui tu ne pouvais même pas exister. Tu n'es que une poussière. La Bible dit, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Donc, en fait, si on veut faire au pourrata, peut-être ta vie, là, ça défile devant Dieu en 5 minutes. Tu es 5 minutes devant lui. On dit la fleur, elle naît et elle meurt. C'est-à-dire que tu es 5 minutes devant lui. Et Dieu te permet de prendre un fouet et d'administrer à Jésus 40 coups moins 1. Donc, en ce moment-là, quand Jésus donnait son dos, et puis je vous dis, le supplice de la croix était dégradant. La version Le Semeur encore le rend très bien. C'était dégradant. Tu ne partais pas te faire flageller en veste. Il n'y avait pas costume, cravate. Mon frère, même si ton habit était joli, comment déchirer ça comme ça? Et puis tu restais dans tes... soyons honnêtes. Dieu a permis que les gens puissent déchirer les habits de Jésus. Qu'on puisse le jeter comme ça contre un bois, avec ses bras. Ils ont lié ses mains. Et un vilain monsieur, tous les bourreaux sont vilains, mon frère. Même si c'était beau avant, quand tu commences à frapper les gens comme travail, tu deviens vilain. Et ce vilain monsieur prend un fouet. Et il administre à Jésus 39 coups. Non, c'est que Jésus là, non, il a trop péché. Non, il est maudit. Ce n'est plus le fils de Dieu. Non. Même si je pouvais penser qu'il était le fils de Dieu, non, c'est pas le fils. Parce que s'il était le fils de Dieu là, non, un ange allait descendre tout de suite pour percer la tête du gars. Une fois Jésus et puis ses disciples sont allés dans une ville. Et arrivés dans la ville, là, les gens les ont chassés. Quand ils sont sortis de la ville, les disciples disent à Jésus, on n'a qu'à commander que le feu descende dans cette ville pour brûler tous les habitants. Jésus dit, vous ne savez pas de qui vous parlez. C'est le diable qui agit comme ça. Pourquoi je vais appeler le feu sur cette ville? Les gens l'ont chassé. Les gens l'ont insulté. Quand il est arrivé même dans la ville où il est né, il est arrivé et il dit, bon, je suis venu vous parler de Dieu. Tout le monde dit, toi, tu as nous parlé de Dieu. Depuis quand tu es devenu le fils de Dieu même? C'est pas toi qui cherchais nos soeurs ici? C'est ce qu'ils lui ont dit. Je ne pense pas que ce soit vrai. Mais ils lui ont dit, tu étais une occasion de chute pour nos soeurs, pour nos filles. C'est ce qu'ils lui ont dit. Donc maintenant, tu es devenu fils de Dieu. Tu es devenu fils de Dieu maintenant. Regardez l'épreuve de la foi. Est-ce que toutes ces oppositions-là, Jésus pouvait s'arrêter un jour et puis dire, mais est-ce que vraiment Dieu m'a envoyé? Est-ce que vraiment, il pouvait se demander, mais est-ce que je suis vraiment le fils de Dieu? Pour que les gens s'opposent à moi, les pharisiens, les sadducéens, les jébuséens, les quoicroyéens, tous ces gars-là, ils étaient arrêtés là comme ça avec des yeux rouges, ils s'opposaient à Jésus. Mais Jésus ne les a pas tués, Jésus ne n'a pas coupé la cou, Jésus n'a pas cassé la tête, Jésus n'a fait que accomplir la mission pour laquelle il a été envoyé. Alléluia. Est-ce qu'il a réussi ou bien est-ce qu'il ne l'a pas réussi? Mon frère, l'opposition et l'épreuve ne peuvent pas t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans ta vie. Oh! Mon frère, quand il y a l'opposition et l'épreuve, quand les gens se lèvent contre toi, commence à danser, mon frère. Commence à danser. Réjouis-toi, parce que tu sais que tu es en train de faire quelque chose qui nécessite une opposition de la part du diable. Si le diable ne s'oppose pas à ta bénédiction, c'est que tu es déjà dans son ventre. Il y a des gens qui veulent arriver dans des églises où ils ne vont même pas même avoir de problème. Dès qu'ils commencent à prier automatiquement, la voiture tombe. Mais ça veut dire que, mon frère, tu es déjà arrivé dans le ventre du diable. Tu es déjà là. Parce que si tu veux être dans un endroit où tu n'as pas d'opposition, c'est que tu as fait ami-ami avec celui qui était ton, avec l'adversaire. La Bible dit, votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc, il est là, c'est un adversaire. Tu veux, dès que tu es dans la maison de Dieu, il devient ton adversaire. Avant, tu pouvais faire ce que tu voulais. Mais maintenant, tu ne le peux pas. Subis des épreuves. Alléluia. Il a été insulté, il a été l'objet d'insultes. On va lire ça encore dans le Semeur. J'aime bien cette version-là. Bientôt, on va changer de Bible ici. Commencez à préparer vos demi. Je ne sais pas ça combien mais la Bible. C'est 4000, non? C'est combien? 3000? C'est 4000. La version Le Semeur. Parce que Louis II, là, mon frère, c'est depuis 1800 et quelques, là. Révisé, là, c'est 1910. Maintenant, je crois qu'il y a révisé et augmenté. Mais là, ils ont révisé, mais n'ont pas changé le langage. Ils ont simplement ajouté certaines choses. Là, je crois que c'était en 1900 et quelques. Bref, c'est vieux. Hébreux, chapitre 12, verset 1 à 3, nous dit, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Alléluia. La Bible dit, il regardait. Il ne considérait pas le supplice. Il ne considérait pas l'épreuve. Mais il considérait l'après-épreuve. Alléluia. Il considérait la joie qu'il y avait après l'épreuve. Il considérait la promesse qui était attachée. Parce que des fois, tu peux, à cause de, en regardant les circonstances qui sont autour de toi, détourner ton regard de la mission que Dieu t'a assigné. Et c'est ce que les gens veulent faire. C'est ce que les gens veulent faire. Regardez l'aveugle. L'aveugle était assis, il a entendu que Jésus était là, il a commencé à crier, Jésus de Nazareth. Les gens lui disent, oh, tais-toi, tu fais trop de bruit là, on ne crie pas comme ça. C'est-à-dire que les gens veulent t'attirer vers d'autres choses. Certainement, ils ne le font pas exprès. Il y en a qui ne le font pas exprès, il y en a qui le font exprès. Parce que ça les énerve de voir que tu es concentré sur un objectif. Mais lui-même, il veut dire quoi même? Il n'a pas notre temps ou bien quoi? Non, il va, on va lui montrer quelque chose aujourd'hui. Et c'est comme ça, des fois des gens te voient, et ils sont jaloux de ton succès, ils veulent obligatoirement te créer des histoires pour que tu arrêtes de progresser, que tu arrêtes d'évoluer. Mais ce serait un piège pour toi d'arrêter cela et de concentrer ton regard sur tes ennemis. Mon frère, Jésus ne concentrait pas son regard sur l'adversité et sur l'opposition, il concentrait son regard sur la gloire qu'il attendait dans le ciel. Alléluia! 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 Mon frère, des fois tu es devant des gens, ils te font rire. Quand les gens même sont en train de le crucifier, ils disent, Seigneur, s'ils savent, ils savent, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des gens, des fois, la dernière fois, je suis passé à la douane. Fallait voir les douaniers là sauter sur moi à cause de la petite batterie. Qu'on voulait prendre pour venir adorer Dieu. Ils ont laissé passer les écrans géants. Ils ont laissé passer les imprimantes de leurs camarades. D'autres sont venus avec vidéo ici, vidéo là, comme ça, ils sont passés. D'autres viennent avec des sacs, au moins 7 sacs comme ça, les gens les laissent passer. Je viens à ma petite batterie. Tous les douanier, du colonel jusqu'au sous-chef, ils ont fait un attroupement là autour de moi. Non, on veut voir ce qu'il y a dedans. Non, ça là, ça passe pas. Non, ça là, on dédouane tout ça. Je les regarde, je dis vraiment, si vous saviez ce que vous êtes en train de faire, vous faites passer les instruments, vous faites passer tous ces trucs-là. Mais les choses qu'on veut utiliser pour louer Dieu, c'est ça que vous voulez empêcher. Pourtant, quand ça chauffe dans le pays, il y a un moment où la douane ne travaille plus. Un moment où les militaires ne peuvent plus travailler. Et je dis, un militaire ne peut pas chasser des démons. Même la douane, là, vous êtes là, vous vous arrêtez, vous ne pouvez pas empêcher la drogue d'entrer. Mais nous, on peut, que lorsqu'on prêche l'évangile, des gens peuvent être touchés et refuser eux-mêmes volontairement la drogue. Je dis, il y a certains problèmes, si on veut les régler, il faut permettre aux hommes de Dieu de pouvoir faire leur travail. Les Américains ont compris cela. Les Américains l'ont compris. Mais nous ici, non, il faut empêcher les hommes de Dieu. Il faut les bloquer. Et j'entendais les raisonnements. Maintenant là, homme de Dieu, là, vous dites quoi? Ça, c'est le commerce. Et vous-même, vous êtes mieux que les maquis. Parce que dès qu'on tape sur la batterie, là, c'est l'argent qui rentre. C'est ce qu'un gars est en train de me dire. J'ai dit, vraiment, ça, il me faisait pitié. Et il y a un homme de Dieu qui m'a aidé. Il a donné un coup de fil au colonel. Il dit, ah, vraiment, ça là, c'est la batterie de mon pasteur. Il faut faire sortir ça. Je dis, ah, d'accord, bon, ok. Et quand je l'ai appelé pour lui faire le compte rendu, il dit, mais ils sont là comme ça. Ils ne savent même pas à qui ils sont en train de rendre service. Que moi-même, ça me fait mal. Un ambassadeur, quand il vient, qui peut toucher ses affaires? Qui peut toucher ses affaires? Écoutez, l'ambassadeur d'un pays. Qu'est-ce qu'il peut faire? Si quelqu'un est en train de mourir aujourd'hui, il peut faire quoi? Quelqu'un va dans les ténèbres, il peut faire quoi? Quelqu'un va en enfer, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un est soumis à des pressions, à des démons, à des dépressions, il peut faire quoi? Nous, on est ambassadeurs du royaume céleste. Tout ce qu'on lit sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce qu'on délie sur la terre est délié dans les cieux. J'ai dit, Dieu va nettoyer ce pays-là. Il va nettoyer. On me dit non, il faut prier. Je dis non, le pays est trop sale, on doit le nettoyer. On doit le nettoyer. Parce que ce n'est pas normal qu'on soit dans une telle pagaille, dans un tel cafouillage. Il faut que Dieu rétablisse l'ordre dans la nation. On n'a même pas fait 3 mois aux États-Unis, les gens nous ont donné tax exemption number. Ça veut dire quoi? Que tout ce qu'on achète, la même voiture, on ne paye pas de taxes dessus, on ne paye pas de douane. Quand tu arrives à l'aéroport, on dit, vous avez quelque chose à déclarer? Oui. Tu viens avec quoi? Je viens avec des cassettes, des livres, tout ça là. Il dit, ah bon, c'est pour faire quoi? Non, je suis homme de Dieu. Il regarde. Ah ok, God bless you. Parce qu'ils savent que ce ne sont pas les programmes gouvernementaux qui vont apporter la chute de la délinquance. C'est pas ça qui va faire sortir les gens de la rue. Ça passe par un changement de mentalité. Et le changement de mentalité, c'est dans l'église du Seigneur qu'on l'a. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand on veut véritablement qu'une nation avance, on aide les hommes de Dieu à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. On ne s'oppose pas. Parce que tous ceux qui s'opposent à l'œuvre de Dieu, la Bible, Jésus a dit, tous ceux qui sont contre moi, tous ceux qui n'assemblent pas avec moi, ils font quoi? Ils dispersent. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Donc, mon frère, si ça fait partie de votre programme, ça veut dire que votre programme est contre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si vous n'aidez pas Jésus à toucher les nations, à toucher le peuple, ça veut dire que vous êtes contre lui. Alléluia. Amen. Donc Jésus a été l'objet d'insultes, de moqueries. Il allait à la croix. Les voleurs même se moquaient de lui. Il y a des voleurs qui étaient sur la croix avec nous. On dit, mais ah, pourquoi tu es ici à nous? Nous, moi, on est des voleurs, mais toi, c'est pas toi qui as guéri. La veuve qui a la paix de sang, là, t'as entendu parler de toi. C'est toi, Jésus, non? Mais tu fais quoi, nous, ici? Nous, on est des bandits, mais toi, tu fais quoi? Les gens se moquaient de lui, donc les gens vont se moquer de toi. Alléluia. Paul, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a été arrêté. Parce qu'il partait annoncer la parole de Dieu. Et il y avait une fille devant eux qui était animée d'un esprit de python. Elle disait, écoutez-les, ce sont les envoyés de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu, écoutez-les, recevez-les. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait des choses même que les gens ont envie d'entendre. L'esprit de Python se manifeste dans l'église. Il y a des gens qui prophétisent par l'esprit de Python. Parce qu'ils vont toujours te dire ce que tu as envie d'entendre. Tu vois quelqu'un qui ne travaille pas. Demain, tu vas travailler. Demain, tu vas travailler. Tu vois une soeur qui n'a pas d'enfant. Demain, tu vas avoir un enfant. Demain, tu vas... Mais tu ne peux pas l'enseigner, mais tu peux lui dire ce qu'elle a envie ou bien ce qu'il a envie d'entendre. C'est l'esprit de Python. Et Paul, qui entendait cela, ne pouvait plus supporter que cette femme-là continue à chaque fois de dire, écoutez-les, ce sont les serviteurs de Dieu, et il a chassé l'esprit. Or, c'est un esprit qui rapportait de l'argent. Donc, la Bible dit que les maîtres, ça rapporte l'argent quand tu commences. Il y a une fois, il y a un organisateur de croisade qui m'a dit ici, à Abidjan ici, là, ce qui marche là, c'est Koury. Je l'ai regardé comme ça. Il dit, Koury là, c'est quoi? Il dit, non, quand les gens vont chez les marabouts là, et puis ils lancent les Koury, ils disent, voilà, tu vas voir ceci, tu vas voir cela là. Dans l'église là, c'est parole de connaissance et puis prophétie. Si tu donnes le Koury aux gens, ils vont venir comme ça. Et c'est ça qui marche. Je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, toi, tu ferais mieux de t'occuper de ton âme. Parce que la manière dont tu es en train d'évoluer là, tu vas te retrouver en enfer. La dernière fois, je suis arrivé à Paris. On me dit qu'il a fait une église à Paris. Donc, il a entendu que j'étais à Paris. Il a pris mon numéro et m'a appelé. Il dit, vraiment, tu es là. Non, il faut que tu viennes prêcher dans l'église là, parce que vraiment, toujours je dis à mes fidèles que c'est grâce que j'étais entré, j'étais sur la voie de la perdition. Pourtant, il était le manager d'un grand homme de Dieu. Hein? C'était le manager. Il dit, j'étais sur la voie de la perdition. Il dit, mais quand tu m'as dit la vérité, ça m'a interpellé. Et aujourd'hui, je sais que je sers Dieu. Alléluia. Alors qu'avant, je servais mes intérêts et je servais un homme. Tu comprends? Paul, l'apôtre, donc a chassé cet esprit-là. Et lorsqu'il a chassé l'esprit, les gens l'ont attrapé, l'ont envoyé en prison. Il a été frappé, ils l'ont frappé, lui, avec Silas. La Bible dit, à minuit, ils se sont réveillés. Et ils ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Et lorsqu'ils ont commencé à chanter, c'est tellement les gens, Silas, entre les deux, il y a un qui ne voulait pas trop chanter. Mon frère, c'était le grand apôtre, l'apôtre Paul. Ou bien il n'était plus apôtre. Hein? Le grand apôtre Paul, ou bien il n'est plus apôtre. Mais c'est l'apôtre, pourquoi on le frappe? Hein? Il dit à Silas, quand je vois la bonté de mon Dieu. Silas dit, oh, pardon, voilà aujourd'hui là. Aujourd'hui, là, vraiment, mon don me fait frapper les affaires de quand je vois là. Depuis là, tu enchaînes, enchaînes là. Je ne vois pas. Faut pas m'envoyer là-bas. Il dit, oh, mais mon frère, on va louer Dieu. Il dit, quand je vois la bonté de mon Dieu. Il a dit, vraiment. Il dit, briller sur le toit de ma main. Il dit, voilà. Donc les gens ont commencé à chanter un peu. Paul et Silas ont commencé à chanter un peu. Au moment où il fallait les voir dans la prison là. Briller sur le toit de ma main. Donc les prisonniers les regardent comme ça, le geôlier, tout ça. Ils disent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas les deux qu'on a frappés tout à l'heure là. Vous voulez encore? Alléluia. Et ils étaient en train de louer Dieu. Mon frère, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de louange sacrificielle. D'un sacrifice de louange. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait la louange d'action de grâce. C'est-à-dire, on t'a donné 500 000 francs tout de suite. Hey, Dieu est bon. Dieu est bon. Tu commences à danser. Mais quand tu traverses les épreuves, les difficultés là, on dit, mon frère, Dieu est bon. Dieu est bon là. On dit, mais mon frère, Dieu est bon, non? Tu as oublié tout le temps. Oh, avant, c'est toi qui disais, Dieu est bon tout le temps. Tout le temps, Dieu est bon tout le temps. Maintenant, tu traverses des difficultés, des épreuves, on dit, Dieu est bon. Oh, mon frère, vraiment. Tout le temps. Oh mon frère, vraiment, attends, aujourd'hui là, je me sens pas bien. Faut me laisser. Non, il est bon tout le temps. Alléluia. Dans les épreuves, Dieu est bon. Dieu est bon. Dans les épreuves, Dieu est bon. Alléluia. Quand ça va pas là, Dieu est bon. Quand ça va aussi, il est bon. Voilà, Dieu est bon. Il est bon. C'est à cause de ça que des fois, il bloque. Mon frère, je te dis quelque chose. Si c'est un démon qui est à la base de ton blocage, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Si c'est un sorcier qui est à la base de ton blocage, c'est pas un problème. Viens tout de suite là, ton problème sera réglé. Tout de suite. J'ai plus d'autorité qu'un démon et j'ai plus d'autorité qu'un sorcier. Dieu m'a dit, voilà, je te donne la puissance et l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Tu vas marcher sur les serpents et tu vas marcher sur les scorpions. Mais tu ne vas pas marcher sur Dieu. Parce qu'il y a des gens, leur blocage là, ce n'est pas les démons. Alléluia. Mais mon frère, il y a des gens, leur blocage là, ce n'est pas les démons. C'est Dieu lui-même qui dit, attends, je vais régler ça, je vais régler ça rapidement là. Maintenant, quand il veut pas, c'est là que ça commence à durer. Il y a certaines choses qui doivent se passer dans l'épreuve pour que Dieu puisse te faire sortir de l'épreuve. Est-ce que c'est pas Dieu qui a permis l'épreuve de Job? Est-il sorti de l'épreuve, oui ou non? Mais il y a des choses qui se sont passées dans la vie de Job qui lui ont permis de sortir de l'épreuve. S'il avait continué, là, il allait rester dedans. Alléluia. Donc, c'est ce qu'on va étudier. Dieu même a éprouvé Abraham. Tu peux voir, par exemple, dans Genèse 22, verset 1. Donc, là, je suis en train d'introduire une série de messages. On va parler de la patience. Qu'est-ce que c'est que la patience selon Dieu? Je ne parle pas de patience. Tu es là, tu croises tes bras et puis tu regardes le problème, te fatiguer. Non. On va voir ce que c'est que la patience. Quand Dieu parle d'endurance, on va aller à la racine même du mot qui a été utilisé pour comprendre certaines choses. Genèse 22, verset 1 nous dit par exemple, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Dieu est trop précis. Mais s'il avait laissé prendre ton fils seulement, Abraham allait aller chercher Ismaël. Il dit, ton unique. Oh, Abraham avait deux enfants, pourquoi Dieu parle d'Isaac comme étant l'unique? Ismaël était déjà né. Ou bien c'est pas Dieu qui a parlé. Abraham a dit, ah, c'est vraiment Dieu. J'allais savoir que j'ai deux enfants. Donc, c'est pas Dieu qui a parlé. C'est un démon. Vos faux. Et c'est pas comme ça que vous faites. Est-ce que la prophétie là, est-ce que ça a réellement dit que... Dieu dit ton unique parce qu'il savait que dans le cœur d'Abraham, c'était son unique enfant. L'enfant de la promesse. Alléluia. Il dit, celui que tu aimes, Isaac. Maintenant, il dit, va, tends au pays de Moridia et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. La Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, ça veut dire quoi? Ils ont marché pendant 3 jours avant d'arriver à l'endroit que Dieu avait indiqué. Il y a des gens, une heure seulement, ça leur suffit déjà pour pouvoir annuler leur promesse ou bien leur offrande. Dieu dit, prends-le, va. Et pendant ce temps, pendant 3 jours, il marche avec son fils Isaac. La Bible dit au troisième jour, Isaac a commencé à lui demander. Il a dit à ses serviteurs, attendez ici, je vais aller maintenant faire le sacrifice. Donc pendant les 3 jours, Isaac pensait que peut-être c'était un des serviteurs qu'on allait sacrifier. Maintenant quand ils ont avancé un peu, Isaac dit à son papa, mais papa, je vois le feu, je vois le bois. Mais le mouton qu'on a sacrifié là où il est. Et là, Abraham lui a dit, Dieu, l'éternel pouvoir. Alléluia. Mais je veux te dire que même Abraham, il a été mis à l'épreuve. Il a été mis à l'épreuve. La Bible l'appelle le père de la foi. Pourtant, il lui a fallu près de 40 ans avant d'avoir la promesse d'Isaac dans sa vie. Alléluia. Mon frère, qu'est-ce que tu veux? C'est la promesse que tu veux ou bien tu veux le Dieu de la promesse? Hein? Tu veux que ta foi arrive à la perfection ou bien tu veux les cadeaux? Hmm? C'est ça. Quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut savoir ce que tu veux. Est-ce que tu veux une relation avec l'Éternel des armées? Parce que si c'est pour les prières exaucées, ce n'est pas forcément ici seulement. Le diable qui a bloqué ton marché, là, il peut débloquer ça tout de suite. Il peut lever sa main dessus tout de suite. Tu peux aller négocier avec lui. Dis bon, je vais revenir. Je reviens parce que je souffre trop, je reviens. Alléluia. Mais ce n'est pas là ce que Dieu veut pour toi. La Bible dit que Jésus-Christ crée la foi et l'amène à la perfection. Considérez la vie de Job. C'est le dernier passage qu'on va lire. Lisons ça rapidement. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques chapitre 5, verset 11. Frère Roland Loire, tu vas te préparer pour ton deuxième chant. Jacques, chapitre 5, verset 11. Ici, Jacques nous dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Alléluia. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Alléluia. Et vous avez entendu parler de la patience de Job. Dès que les épreuves ont commencé, la femme de Job est venue lui dire, mon frère, maudit Dieu et meurt. Job dit, je ne vais pas t'écouter, je ne peux pas maudit Dieu. Et Job a été patient, Job a été endurant, Job a été persévérant. Et Dieu, la Bible dit que Dieu lui accorda le double de tout ce qu'il avait perdu. Mon frère, c'est la Bible qui dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Mais la bénédiction de l'Éternel, pour pouvoir la voir, il y a certaines caractéristiques que tu dois avoir dans ta vie. Notamment la patience. Mais comment Dieu va faire pour savoir que tu es patient s'il n'y a pas d'épreuve? Parce que si tout de suite là, tu reçois la puissance, tu reçois l'autorité, tu reçois les dons, tu reçois la grâce, tu as tout. Et que tu n'es pas quelqu'un de patient, mais les gens vont mourir autour de toi. Combien de fois j'étais prêt de prononcer des paroles. Mais c'est la patience. La Bible dit que l'amour est patient. C'est la patience qui fait que la personne t'insulte. Mais tu dis vraiment que Dieu te bénisse. Alléluia. On dit, mais lui, il est bête. Hein? Tu n'es pas bête. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas naïf. Tu n'es pas idiot. L'amour croit tout. L'amour espère tout. Tu n'es pas idiot. Quand quelqu'un t'a doublé, puis il revient encore avec un autre truc, et quand tu l'acceptes, tu discutes avec lui là, c'est pas parce que tu es bête. C'est parce que tu l'aimes. Alléluia. Sinon, tu as l'autorité. Celui qui a la possibilité de bénir, il a la possibilité également de maudire. Mais si tu ne maudis pas, c'est pas parce que tu n'as pas la capacité, c'est tout simplement parce que Dieu a su forger en toi la patience. Je vais te dire que les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Mon frère, lève-toi. Levons-nous. Les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. Ce matin, le Seigneur mettait dans mon esprit, je voyais une immense assemblée. On avait bâti un temple de plus de 10 000 places. Je voyais le parc automobile même, c'était rempli des plus gros cylindres. Alléluia. Et puis je dis, mais Seigneur, c'est qui ces gens-là? Il dit, mais c'est les membres de l'assemblée. Parce que c'est une église de bénédiction. Et lorsque j'appelle la bénédiction, elle doit se manifester. Alléluia. Dieu nous a bénis. Nous sommes bénis. Et nous allons aller de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de percée en percée. Ne pensez pas que quelque chose peut nous arrêter. Ce n'est pas possible. La seule chose qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. Si nous ne croyons pas. Mais si nous sommes persévérants, si nous sommes endurants, si nous ne nous laissons pas abattre par les épreuves, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester. Alléluia. Je sais qu'au milieu de nous, Dieu va susciter des hommes d'affaires puissants. Mais mon frère, tu ne peux pas dès le moment où tu ouvres ton affaire, avoir des marchés de 2 milliards. Tu vas faire quoi avec? Il faut commencer d'abord par 1 million, ensuite 10 millions, ensuite 100 millions, ensuite 200 millions, avant d'arriver maintenant dans les milliards. Après maintenant, peut-être tu vas pouvoir rentrer dans les billiards. Le problème, c'est qu'avec Dieu, mon frère, ça commence. Et puis tu évolues. Alléluia. Maintenant, il y a des gens qui décident de s'arrêter un moment. Tu évolues, tu arrives à un certain moment, tu dis, bon, Dieu, c'est bon, je suis assez béni comme ça. Et puis Dieu dit, ok, bon, d'accord, pour toi, c'est bon, bon, je vais continuer avec ceux qui veulent avancer, c'est tout. Alléluia. Lève les mains vers mon Dieu, parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Dis-lui que tu veux être établi dans sa maison. Tu veux être établi dans sa maison. Tu veux être établi dans sa maison. Tu veux prospérer dans sa maison. Tu veux être dit, je veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui produit du fruit à sa saison. Je ne veux pas produire du fruit avant la saison. Mais je veux produire du fruit au moment que tu as fixé, Seigneur. Parle à ton Dieu.
Oh, pour servir. Oh oui, Père. Ouvre la bouche.
Oui, Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Je veux le Dieu de la promesse et non la promesse. Je veux le Père Tout-Puissant, c'est toi que je veux, Seigneur. Je veux marcher dans le chemin que tu as tracé pour moi. Je veux être de la gloire, ma foi, sur le trône de la victoire. Alors que tu as les mains levées et les yeux fermés, je vais te demander d'être dans le silence. Je veux prier pour toi. Éternel mon Dieu, je crois que tu es un Dieu merveilleux et puissant. Et tu as dit dans ta parole que le Père châtie l'enfant qu'il aime et qu'il chérit. Je sais, Seigneur, que l'or et l'argent t'appartiennent. La terre et tout ce qu'elle contient. Tu es un Dieu riche, un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu glorieux. Et toutes les bonnes productions de cette nation, tu les as mises à part pour tes enfants. Tu veux que nous vivions dans l'abondance. Tu veux que nous vivions dans la prospérité. Tu veux que nous nous élevions à tous égards, Seigneur. Tu as commencé une œuvre dans notre vie afin de provoquer la patience, afin de produire la patience, la persévérance, l'endurance dans notre cœur. Seigneur, pour certains, le moment est arrivé que l'épreuve s'arrête. Le moment est arrivé. C'est la fin de l'épreuve pour toi. Les temps de disette sont terminés. Les temps de souffrance sont terminés. Les temps de souffrance sont terminés. Écoute-moi bien. L'Éternel, mon Dieu, me dit de te dire que le temps où tu marchais dans la solitude est terminé. Dieu t'a permis que tu marches dans la solitude afin que tu puisses le connaître véritablement. Tu étais seul, mais tu marchais seul, mais en réalité tu n'étais pas seul. Le Saint-Esprit était là, il était avec toi, il te parlait. Tu as connu ton Dieu, tu t'es approché de Dieu. Dieu maintenant reconnaît que ce temps-là est arrivé, c'est fini, l'épreuve est fini. Le temps de l'épreuve pour toi est arrivé à son terme. Le temps de l'épreuve pour toi est arrivé à son terme. Il y a quelqu'un ici, me dit le Seigneur, depuis 2 ans, tu traverses une situation financière désastreuse, alors qu'avant cela, tu n'avais jamais connu le chômage, tu n'avais jamais connu le manque, tu n'avais jamais connu le manquement, tu n'avais jamais connu la disette. Mais aujourd'hui, me dit l'Éternel, le temps des difficultés financières est arrivé à son terme. C'est fini pour toi. Tu vas connaître l'abondance parce que tu as été éprouvé et tu as été trouvé fidèle. Je t'ai éprouvé au creuset. Je t'ai éprouvé au creuset. Je t'ai éprouvé au creuset. J'ai enlevé les impuretés. J'ai enlevé les saletés. J'ai enlevé les saletés. Et aujourd'hui, tu es pur. Et je vais déverser sur toi la bénédiction. Seigneur mon Dieu, ouvre les écluses. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Ouvre les écluses des cieux. Mon frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas que Dieu ne t'aime pas, mon frère. C'est parce qu'il t'aime qu'il permet que tu passes par les épreuves. Pour que la bénédiction ne te détruise pas. Pour que la bénédiction ne te détruise pas. Pour que la bénédiction ne te fasse pas tomber. Merci Seigneur. Parce que tu ouvres sur nous les écluses des cieux. Et tu fais descendre la bénédiction en abondance. Que nous sortions de la médiocrité. Que nous sortions de l'imperfection. Que nous sortions du manque et que nous marchions dans l'abondance. Que ton nom, Père de gloire, soit béni. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Tu peux acclamer l'Éternel, ton Dieu. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai senti la présence de Dieu. Alléluia. Je crois véritablement que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma tête. Alléluia. Je crois véritablement que nous allons commencer à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Alléluia.